voix marseillaise. C'est un ensemble immobilier imposant, serré entre la rue d'Alger, la rue Poriol et celle de Melchion, dans le 5e arrondissement de Marseille. En 1935, la Casa d'Italia, qui regroupe aujourd'hui l'Institut culturel italien et le Consulat d'Italie, fut inaugurée en pleine période mussolinienne. Voulue et imaginée par le régime fasciste italien, les Casa d'Italia, présentes un peu partout dans le monde, avaient pour mission de diffuser et entretenir cette idéologie au sein des communautés italiennes à l'étranger. Dans la Casa d'Italia de Marseille, la seule en France à présenter une architecture avec les codes et symboles fascistes italiens, étaient proposées des activités culturelles, sportives, scolaires et politiques aussi, sous la houlette et le contrôle strict du Fascio, le parti fasciste. Stéphane Mourlin, directeur adjoint de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et maître de conférences, a publié récemment un livre consacré à la Casa d'Italia de Marseille. Intitulé « Fascisme et Italien de Marseille, la Casa d'Italia », il a été édité aux presses universitaires de Provence. J'ai rencontré Stéphane Mourlan à l'Institut culturel italien pour enregistrer cette émission. Un grand merci à Angelo Iso, directeur de l'Institut culturel italien, et son équipe pour leur chaleureux et sympathique accueil. Alors d'abord, d'où vient ce mot de Casa d'Italia ?
Alors littéralement, la Casa d'Italia, c'est la maison de l'Italie. C'est donc une sorte de petit bout d'Italie, hein. C'est un territoire d'extraterritorialité. Et à la fin des années 1920, le régime fasciste, qui entend développer son emprise sur l'extrême importante communauté italienne à travers le monde, hein. Il y a près de 9 millions d'Italiens qui vivent à travers le monde à cette époque-là, 800 000 en France, hein. Ils n'ont jamais été aussi nombreux, ce qui représente d'ailleurs la première nationalité étrangère. Et donc le régime fasciste a pour objectif de maintenir ces Italiens dans la communauté italienne, dans la communauté nationale. Il s'agit donc de défendre, hein, c'est le leitmotiv, l'italianité de ces migrants. Or, cette italianité, évidemment, elle a une dimension idéologique, hein, puisque un bon Italien pour le régime fasciste, c'est un fasciste.
Alors, cette maison a été inaugurée en 1935. Avant, il y avait quoi ici ?
Alors ici, sur ce lieu, donc nous sommes dans le 5e arrondissement de Marseille, à proximité du boulevard Bail, il y avait la Société de bienfaisance italienne, qui était installée, hein, ici depuis les années 1860. Il s'agissait donc d'une institution caritative, hein. Il y avait d'ailleurs déjà une chapelle, il y avait une école, un réfectoire. Et cette société de bienfaisance, comme beaucoup d'associations italiennes, à la fin des années 1920, lorsque le régime fasciste justement décide, hein, de faire entrer dans son giron cette communauté italienne, eh bien, elle est progressivement phagocytée. À telle enseigne qu'en fait, dès 1928, dans les locaux de la Société italienne de bienfaisance, est inaugurée la première Casa d'Italia, modeste, comme on en trouve beaucoup à travers le monde. Et en France, il y a une cinquantaine de Casa d'Italia. Parfois, d'ailleurs, c'est Casa d'Italia, c'est simplement un appartement, hein, ou un petit logement. C'est donc ici, qui est inaugurée en 1928, la première Casa d'Italia, jusqu'à ce que cette société italienne de bienfaisance soit totalement sous l'emprise du régime fasciste, et les locaux sont détruits, et très rapidement, en quelques mois, hein, c'est une performance, hein, eh bien, est érigée cette Casa d'Italia, qui est un immense complexe architectural, 4000 mètres carrés, dans une architecture typique de l'époque, rationaliste. D'aucuns diront une architecture fasciste. Quoi qu'il en soit, c'est le seul exemple en France, et il y en a plus à travers le monde, de Casa d'Italia, construite ex nihilo à dessein.
Alors, selon une note de police, hein, vous dites dans votre livre, la Casa d'Italia était surnommée la Casa du Faccio.
Le maître des lieux, c'est le consul. À partir de 1927-1928, on assiste à un processus de fascisation de la diplomatie italienne et en particulier des consuls. C'est exactement ce qui se produit à Marseille, où est envoyé le consul Barduzzi. Et le consul Barduzzi, c'est un fasciste de la première heure. Ce n'est pas un homme de la carrière diplomatique. Il est député de Trieste, il a participé à la marche sur Rome avec Mussolini. Et il a pour consigne de remettre de l'ordre. Il existe un fascio. Donc le fascio, c'est l'unité élémentaire du parti national fasciste. Il existe un fascio à Marseille depuis dès la fin 1922. Alors, je rappelle que Mussolini arrive au pouvoir en octobre 1922. Or, l'histoire de ce premier fascio est une histoire très chaotique. Les gens qui l'animent sont des gens qui sont souvent peu recommandables, d'ailleurs dont certains ont un peu maille à partie avec la justice. Et le consul, ce consul fasciste, effectivement, hein, bah c'est lui qui est à l'initiative de cette Casa d'Italia. Et dans cette Casa d'Italia, il y a non seulement le consulat, mais il y a le siège du fascio. Et d'ailleurs, la Casa d'Italia de Marseille, son architecture, elle est inspirée très fortement des Case del Fascio que l'on trouve dans toute l'Italie, dans toutes les villes d'Italie, et dont certaines existent encore, hein, et on n'y prête pas forcément attention, avec une différence quand même extrêmement importante, c'est qu'en Italie, ces Case del Fascio, elles ont une tour, la Torre del Littorio. Hein. À Marseille, par souci quand même de discrétion, puisque c'était l'une des consignes que donnait Mussolini, c'est surtout de ne pas se fâcher avec les hôtes, avec le pays d'accueil. Donc par un souci un peu de discrétion, il n'y a pas ici de tour du fascio.
Donc là, on a commencé l'entretien justement dans la partie de la maison du fascio, c'est ça?
Oui,
ici.
Exactement. Alors nous nous situons ici à l'étage hein, de l'Institut culturel italien que connaissent bien de nombreux Marseillais qui ont le goût de l'Italie et de sa culture. Et nous sommes effectivement ici au siège du fascio, hein, c'est-à-dire du Parti national fasciste. Le couloir dans lequel nous nous trouvons et qui mène à la bibliothèque aujourd'hui de l'Institut culturel italien, eh bien, était un couloir, j'en ai déniché une photographie que je publie dans le livre, eh bien, on trouvait le buste de Mussolini au milieu de ce couloir.
La communauté italienne était appelée, si j'ai bien compris, colonie par la Direction générale des Italiens à l'étranger.
C'est pas propre au régime fasciste. Hein. C'est une expression qui apparaît dès le début du XXe siècle et qui répond en fait à une problématique qui se pose en Italie. On rappelle que l'Italie est un pays jeune, une nation récente. Hein. Son unité s'est forgée en 1861. Or, au moment même où ce pays forge son unité, il y a toute une partie de la population qui quitte le pays. 14 millions d'Italiens quittent l'Italie entre les années 1860 et la veille de la Première Guerre mondiale. Et en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un mal, une hémorragie, dit-on, hein, c'est-à-dire que l'Italie se viderait de son sang, ou est-ce qu'au contraire, cette émigration eh bien, participe du rayonnement de l'Italie à travers le monde. Or, on sait qu'à l'époque, le rayonnement d'un pays, l'affirmation de sa puissance passe par la possession d'un empire colonial. L'Italie n'a récupéré que les miettes. Hein. Elle est arrivée un peu tard, si je puis dire, sur le marché des colonies. Il y a la conquête de la Libye hein, qui commence en 1911. Et de fait, ce terme de colonie, il a effectivement ce sens particulier et qui donne aux Italiens à l'étranger, ben finalement, une sorte de mission colonisatrice. Alors, non pas de coloniser le territoire. C'est d'ailleurs ce qu'ont pu croire les xénophobes. Hein. On parlait ici à Marseille d'une invasion italienne. Hein. On rappelle qu'à Marseille, un habitant sur cinq à la veille de la Première Guerre mondiale est italien. Et que lorsque l'on est un étranger à Marseille, on est 9 fois sur 10 un Italien. Alors, au cours de l'entre-deux-guerres, cette proportion se réduit, mais on a quand même toujours autour de 120 000 Italiens présents dans la ville. Et Mussolini, lui, effectivement, renforce surtout cette idée, pardon, hein, de colonie italienne. D'ailleurs, Mussolini réfute le terme d'émigrant. Il s'agit désormais de parler d'Italiani all'estero, d'Italiens à l'étranger, pour bien montrer qu'ils appartiennent encore à la communauté nationale. Et donc c'est tout à fait intéressant, effectivement, de voir que ce terme « colonie » vise à donner, je dirais, une dimension positive, bénéfique, prestigieuse presque, à l'émigration italienne.
Alors, quel type d'Italien, entre guillemets, venait ici fréquenter la Casa d'Italia à partir de 1935? Est-ce qu'ils étaient tous fascistes ou est-ce qu'ils étaient tout simplement, ils venaient parce qu'il y avait des fêtes
Alors, c'est une question délicate, ce qui me permet de dire que même, vous voyez, sur des périodes qui ne sont pas si anciennes que ça, hein, on est un peu moins d'un siècle, bah, les historiens ne savent pas tout. Les historiens ne peuvent pas tout savoir, les historiens sont tributaires de leurs sources. Or, ces sources ne nous disent pas précisément quel est le profil, ni même le nombre de ceux qui fréquentent les lieux. Mais on peut quand même avancer quelques éléments. La première chose qu'il convient de rappeler, c'est que l'immense majorité des Italiens présents à Marseille, d'ailleurs comme dans le reste du pays, se maintient dans une attitude de stricte neutralité politique. On a beaucoup parlé des antifascistes. Oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de ces migrants qui ont fui l'oppression du régime. D'ailleurs, souvent, les deux raisons, hein, politiques et économiques, sont mêlées. Mais ça représente peut-être 1 à 2% de la population. Il en est de même du côté des fascistes. Selon les estimations que j'ai pu avancer, je vous rappelle qu'on est sur une population de 120 000 personnes, il y a un millier, vraiment, au plus, un millier d'entre eux qui sont des fascistes patentés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont la carte, hein, qu'éventuellement, ils vont porter la chemise noire. Donc, vous voyez, c'est très peu. Pour autant, les sources nous indiquent, notamment les photographies, que ces lieux étaient effectivement très fréquentés. Alors, la propagande fasciste parle de 20 000 à 60 000 personnes par an. Difficile à dire. En revanche, ce que l'on peut affirmer, c'est que ceux et celles qui fréquentaient ces lieux n'étaient pas tous des partisans zélés du régime de Mussolini. Et pourquoi donc alors venaient-ils? C'est là où le régime fasciste, finalement, a montré quelque intelligence, si je puis dire, en considérant que cette maison d'Italie, eh bien, elle était aussi une maison de bienfaisance, une maison d'assistance. Il y avait un réfectoire. On passera devant, peut-être tout à l'heure. Il y avait un dispensaire. Les plus démunis étaient soutenus. Et puis, cette maison, c'est aussi une maison de la culture. C'est-à-dire que quand on quitte son pays, on reste attaché à ses origines. Or, ici, à la Casa d'Italia, quoi, on retrouve un peu de cette Italie au travers de spectacles, de différentes activités. Et donc, ce n'est pas pour autant des fascistes extrêmement zélés qui, effectivement, fréquentaient ces lieux. Et puis, il faut rappeler que c'est le siège du consulat général d'Italie et que donc toute démarche administrative conduisait à la Casa d'Italia.
Les gens qui venaient ici ne risquaient pas d'être convertis de force?
Alors, de force, sans doute pas. Hein, mais la propagande imprègne les lieux. Aujourd'hui, toutes les traces, tous les stigmates du fascisme ont disparu.
Il y avait un décorum, quoi.
Il y avait un décorum, effectivement, entièrement tourné vers la propagande. Il y avait aussi un discours de propagande. C'est-à-dire que, quelle que soit l'activité qui était proposée, elle s'accompagnait, bien évidemment, de discours, de propos qui faisaient l'éloge de l'Italie et de l'Italie fasciste.
C'était souvent le consul ou le chef du parti fasciste ici?
Oui, alors très souvent le consul, ça peut être le chef du parti fasciste, ça peut être d'autres militants en fonction du public, hein, parce que la Casa d'Italia est fréquentée par des adultes, mais aussi par des plus jeunes. Il y avait les organisations de jeunesse fasciste, il y avait une école à la Casa d'Italia. Et donc cette maison résonne, si je puis dire, de la propagande fasciste. Pour autant, effectivement, il n'était pas demandé d'adhérer pour participer à toutes les activités. Alors, quand on intégrait une des structures, Je pense notamment au Dopo Lavoro, c'est-à-dire l'organisation de loisirs, hein, si on voulait participer à des excursions, puisqu'il y avait une sorte de club d'excursionnistes, là oui, mais en revanche, pour venir assister à des spectacles, pour venir assister à un certain nombre de cérémonies patriotiques, il n'était pas nécessaire de montrer non pas patte blanche, mais patte noire du régime.
On peut parler un peu là de l'architecture. Qui a conçu cet ensemble architectural ?
On est dans une architecture moderniste, rationaliste, qui cherche à en imposer. La Casa d'Italia n'est pas le résultat d'un travail d'un architecte, mais d'un ingénieur. Il s'agit de Lamaharo, qui est un peu connu tout de même. Il a connu un certain succès, notamment en étant le promoteur immobilier de résidence à loyer modéré à Rome, et qui va mettre son savoir-faire, ses équipes, à la disposition du consul et du régime italien pour construire donc ce vaste ensemble architectural qui s'articule autour de cette cour. Quand on entre justement, pour ceux qui sont familiers ou qui viendront, on les appelle à venir découvrir l'Institut culturel italien, sur la droite, vous avez le consulat, gros bâtiment assez imposant, et quand on est rue d'Alger d'ailleurs, sa façade en impose. Et puis, sur la gauche, le siège aujourd'hui de l'Institut culturel, qui était celui de la Casa del Fascio. En fait, cette cour, elle est aussi encerclée de balcons, et l'architecture de cette cour, elle est spécifique parce qu'elle avait une vocation. Aujourd'hui, c'est un parking. Elle devait accueillir les cérémonies du régime. Parce que l'une des raisons d'être de la Casa d'Italia, c'est que de répondre à l'exigence de Mussolini de discrétion au sein du pays d'accueil. L'objectif, encore une fois, ce sont les Italiens à l'étranger. Il ne s'agit pas d'aller faire de la propagande auprès des Français ou de la société française. Donc cet espace permet justement de célébrer l'Italie, de célébrer le fascisme. Et les occasions sont nombreuses. Il y a tout un calendrier que l'on peut qualifier d'ailleurs de calendrier quasi liturgique. Un grand historien italien du fascisme, Emilio Gentile, a pu parler de religion politique à propos du fascisme, avec son rituel. Alors il y a des dates qui relèvent de l'histoire patriotique, la célébration de la Première Guerre mondiale notamment. Il y a des dates qui, elles, sont plus en relation avec l'histoire du fascisme. La fondation des Faisceaux, le premier parti fasciste. Il y a aussi la célébration de la marche sur Rome, à la fin du mois d'octobre. On va célébrer aussi le Natale di Roma, 21 avril, le jour de la naissance de Rome. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. C'est l'un des axes de la propagande, cette filiation qu'il y avait entre la Rome antique et la Rome fasciste. Et l'une des grandes fêtes, à partir de 1937, c'est l'Annuale dell'Impero. C'est la fête de l'Empire. Parce que là, on touche à un point extrêmement important de la propagande et qui donne du sens à ce lieu. Ce lieu qui est inauguré donc en novembre 1935, au moment où l'Italie déclenche la guerre de conquête de l'Éthiopie. En vue, justement, de développer, d'instaurer son empire. Et cette proclamation de l'Empire, elle intervient en 1936 et elle est célébrée ici. Elle est célébrée dans la cour même. Cette cour, donc nous avons ces deux bâtiments et face à nous, donc nous avons le consulat sur notre droite, nous avons le siège du Fascio sur notre gauche et autour de nous, des balcons, des grandes terrasses plus exactement, surmontées de vastes murs qui aujourd'hui sont vierges et sur lesquels en fait on trouvait des fresques à l'époque. Et ces fresques en fait célébraient l'Empire, et l'Empire romain, le Mare Nostrum de l'Antiquité. On trouvait aussi de grandes fresques avec des navires de l'époque moderne, avec cette idée en fait que l'on cherche à faire passer que les migrants, les émigrants, même si on ne les appelle plus ainsi, sont quelque part des héritiers, les descendants de Christophe Colomb, partis à la conquête du monde au nom de l'Italie. Donc, on est effectivement ici dans un lieu où effectivement les murs parlent à l'extérieur, à l'intérieur aussi des bâtiments, et ils parlent la propagande fasciste.
En quoi cette Casa d'Italia est différente des autres maisons dans le monde à l'époque? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, de particulier?
La particularité de la Casa d'Italia de Marseille, c'est qu'elle a été construite à dessein, selon effectivement un modèle architectural qui avait cours à l'époque en Italie fasciste. Il n'y a aucun autre exemple en France, où il y a pourtant entre 40 et 50 Casa d'Italia. Il y en a très peu à travers le monde. À Montréal, par exemple. C'est intéressant, d'ailleurs, aujourd'hui, à Montréal, elle s'appelle toujours la Casa d'Italia. Et à Montréal, contrairement à Marseille, on voit encore sur les murs quelques faisceaux d'électeurs. Alors que ici, encore une fois, tout a disparu. On pourra revenir éventuellement sur les conditions, effectivement, de disparition de ces références explicites au fascisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux et celles qui viennent, soit pour des raisons administratives au consulat, soit pour suivre des cours d'italien, à l'Institut, ou venir voir des spectacles, des expositions proposées par l'Institut culturel italien, finalement, n'ont que peu d'idées de ce qu'a pu être le passé de ce lieu, lié étroitement, non seulement, bien sûr, à l'histoire de l'immigration italienne à Marseille, mais aussi à l'histoire du fascisme.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tous les métiers, voleur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui mais je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais. Je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù.
On est maintenant dans une salle. On est où exactement?
Alors, on est descendu au rez-de-chaussée de l'Institut culturel italien et nous nous trouvons dans ce qui est aujourd'hui une salle d'exposition, une salle de réception et qui était à l'époque de la Casa d'Italia, la salle du Dopolavoro. Le dopo lavoro, littéralement, c'est après le travail, les italophones l'auront bien compris. Le dopo lavoro, en fait, c'est l'organisation qui, en Italie, mais aussi au sein de l'immigration italienne, a pour vocation d'encadrer les loisirs des adultes. On rappelle que le régime fasciste, hein, c'est une dictature nationaliste, mais c'est aussi un régime totalitaire, hein, qui vise justement à contrôler l'ensemble de la vie sociale des Italiens. Et alors dans cette salle du Dopo Lavoro, on trouvait, et on le voit d'ailleurs toujours, il est devant nous, le bar. Hein, donc c'est un lieu de divertissement. Hein. Et puis il y avait deux billards, qui était l'une des activités, on l'évoquait tout à l'heure, ces activités de loisirs qui finalement, de prime abord, non, ne sont pas liées directement à la propagande, hein, et où on venait jouer, où on organisait d'ailleurs des compétitions. Le championnat de billard était l'une des activités les plus prisées de la Casa d'Italia.
On est loin quand même du sport magnifié par Mussolini et les représentations murales.
Oui, alors... C'est intéressant parce qu'effectivement, ça nous permet aussi de rappeler aux auditeurs qu'un régime totalitaire, ce qui caractérise un régime totalitaire, c'est sa vocation à mettre en œuvre une révolution anthropologique. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'idée qu'on va forger un homme nouveau. On le retrouve dans l'Allemagne nazie, mais aussi en Italie. Et cet homme nouveau, à bien des égards, c'est un homo sportivus. Et d'ailleurs, Mussolini n'a de cesse de se mettre en scène pour la propagande dans différentes activités sportives. En Italie, comme ici, à Marseille et à l'étranger, le dopo lavoro a pour vocation justement à développer l'activité physique et sportive. Et il y a à Marseille, effectivement, un club de football, de l'escrime, de la gymnastique. Avec juste à côté du bâtiment où nous nous trouvons, il y avait un gymnase qui aujourd'hui a disparu après avoir été transformé en garage. D'ailleurs, l'équipe du Dopo Lavoro de Marseille obtient de bons résultats dans le grand concours des Dopo Lavoro qui se tient chaque année à Rome. Mais effectivement, au-delà de cette sportivité magnifiée qui a pour fonction de sculpter le corps de l'homme nouveau, en réalité à Marseille, les deux activités les plus prisées, c'est, nous venons de le dire, le billard, mais aussi... Alors, les Italiens ne parlent pas de pétanque, mais de la bocce. Et on joue, effectivement, aux boules dans la cour de la Casa d'Italia.
Il y avait aussi la section des excursionnistes, la Casa d'Italia, qui marchait bien, avec un mémorable voyage en 1937 à Rome.
Oui, alors c'est l'une des sections, effectivement, du Dopo Lavoro. C'est la section, effectivement, des excursionnistes, des randonneurs, nous dirions aujourd'hui. Alors il y avait, des promenades qui étaient organisées, notamment dans l'arrière-pays marseillais. Et évidemment, chaque année, c'était le moment un peu fort, c'est le voyage en Italie. Le voyage en Italie qui est considéré, selon la propagande, comme un bain d'italianité. On rappelle encore une fois que l'objectif, c'est... D'ailleurs, c'était le maître mot de la propagande. Tu es italien, tu dois rester italien.
Ça va totalement à l'encontre de la politique d'assimilation de la France. Ça va rentrer en conflit, notamment au niveau de l'école ici.
C'est la hantise. Cette politique d'assimilation qui est menée effectivement par la République, d'intégration. Au cours d'entre-deux-guerres, on parlait même de francisation. Et on le sait que c'est un débat qui est encore aujourd'hui vif lorsqu'il s'agit d'évoquer la question de l'immigration en France. C'est une hantise d'autant plus importante qu'il y a en France une loi qui est adoptée en 1927 qui favorise la naturalisation. Ça, c'est vraiment ce que cherche à éviter les fascistes. Et vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention sur l'école. Il y a au sein de la Casa d'Italia, dans le bâtiment qui nous fait face, qui est le bâtiment aujourd'hui donc du consulat, il y avait une école. En réalité, à Marseille, il y avait trois écoles italiennes. Celle de la Casa d'Italia, il y avait une école rue Guérin, à la Belle de Mai, quartier très italianisé, et puis une école dans un orphelinat à l'Estac, qui était aussi un quartier très italianisé. Et effectivement, l'enjeu est majeur. L'enjeu est majeur à double titre. On a déjà évoqué la perspective totalitaire. L'idée de faire un Italien nouveau, et cet Italien nouveau, c'est un fasciste, évidemment, réclame que la formation, dès le plus jeune âge, soit prise en charge. L'autre enjeu, c'est que la plupart de ces jeunes gens en vertu du droit de la nationalité dont on discute encore beaucoup aujourd'hui, eh bien, ils sont nés en France. Et donc, ils peuvent prétendre à la nationalité française. Il convient donc absolument d'éviter cela et donc de les éduquer dans la langue italienne, en imprégnés de culture italienne. Il y a en tout et pour tout un millier, en gros, d'élèves. Alors là aussi, la proportion, elle n'est pas énorme. On estime qu'il y avait 15 000 élèves italiens à scolariser à Marseille. Il y en a un millier qui fréquentent les écoles italiennes. On va les chercher d'ailleurs avec tout un système de ramassage scolaire qui est mis en place par autobus. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure sur l'adhésion, c'est que quand on regarde les photographies, et j'en publie un certain nombre dans le livre, on a l'impression d'une école d'élite, d'ordre. La réalité est tout autre. Pour le coup, là, j'ai pu consulter les rapports qu'envoyaient les enseignants des écoles tous les ans à Rome. Et que nous disent-ils ? Ils ne cessent de se plaindre de leurs élèves. En fait, ces élèves appartiennent aux catégories les plus en difficulté, les plus pauvres de la colonie italienne de Marseille. Ils sont mal élevés, on nous dit. Ils sont malpropres. Leur hygiène laisse à désirer. Ils parlent très mal, voire très peu, l'italien. Et pourquoi alors sont-ils là ? Ils sont là parce que, en fait, c'est la gratuité. Les uniformes, la nourriture, le ramassage scolaire. Officiellement, d'ailleurs, cette école doit, en vertu d'une loi de 1886 en France, les écoles étrangères doivent préparer au diplôme français, notamment au certificat d'études. Or, là aussi, les inspecteurs d'académie n'ont de cesse de se plaindre, parce qu'en réalité, l'enseignement qui devrait être à parité en français et en italien est majoritairement en italien. Et cet enseignement, en fait, est un enseignement qui est résolument tourné vers la glorification de l'Italie et du régime fasciste.
Et alors, ce voyage en 1937, là, à partir de la gare Saint-Charles, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'était quelque chose de grandiose, là ?
Alors, il y a eu plusieurs, effectivement, voyages, et effectivement, on y mettait tout un décorum. On revêt l'uniforme, les fameuses chemises noires. Le départ se fait en fanfare. C'est l'un des rares moments, d'ailleurs, où le fascisme se donne à voir en dehors de la Casa d'Italia. Donc, un départ en fanfare, le consul, le secrétaire du fascio, les autorités locales sont présentes. Et il y a effectivement un premier arrêt à la frontière, un accueil mais digne d'un chef d'État, un accueil protocolaire, fanfare, les autorités de la ville, le plus souvent à Vintimille, puisqu'en fait, la frontière se situe, quand on prend le train, la frontière est à Vintimille, puisque c'est une gare internationale. Bienvenue à la maison, bienvenue le retour à la patrie. Et en fait, le sens de ces voyages, il est effectivement de faire prendre conscience, de redonner de la fierté à ces Italiens, comme appartenant à une nation, effectivement, quoi, qui s'est redressée. Alors évidemment, on leur donne à voir les grands travaux qui ont été effectués par le régime fasciste. On leur donne à voir, bien évidemment, l'héritage historique dont le régime se revendique. Alors évidemment, le passage à Rome est un moment obligé, le Colisée, etc. Et puis, il y a même, pour certains de ces voyages, des rencontres avec les hiérarques du parti, et notamment Mussolini, qui accueille les Italiens de Marseille. Et nous avons des photographies, justement, parce que tout ça est bien évidemment mis en exergue par la propagande, du groupe, du bataillon quasiment, puisqu'ils sont là dans Rome, parce que dans Rome, on les accueille à la gare de Termini, et ils défilent avec une pancarte « Fascio di Marsiglia », le fascio de Marseille, et ils sont acclamés, mais bon, tout ça est orchestré, tout ça n'est pas absolument pas spontané, ils sont acclamés par la foule. Donc ce sont des moments extrêmement importants qu'on retrouve aussi par ailleurs pour les jeunes gens. J'évoquais cette question de bain d'italianité, les colonies de vacances. La Casa d'Italia, la cour de la Casa d'Italia, c'est le lieu de départ chaque année de colonies de vacances organisées pour les enfants des Italiens à l'étranger, et notamment de Marseille. Et cela a un certain succès, au moins jusqu'au milieu, enfin début des années 30. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Et à partir du moment où l'État italien, qui, il faut bien le dire, l'État fasciste n'a pas toujours eu, dans bien des domaines, les moyens de ses ambitions. Donc on demande une contribution financière et là, il y a d'un seul coup un peu moins de candidats à ces colonies. Et là aussi, c'est intéressant parce que, en fait, nous, on a des textes de propagande, on a des images de propagande où on a l'impression que tout ça est formidable, merveilleusement bien organisé, que les enfants sont complètement épanouis. Et la propagande dit justement qu'ils reviendront régénérés, hein, c'est-à-dire attachés, italianisé, si je puis dire. La réalité, elle est un peu différente. On peut avoir, notamment, j'ai pu avoir accès à quelques correspondances envoyées par ces jeunes Italiens, enfin, jeunes Marseillais, en réalité, quoi, qui sont très impatients de rentrer à Marseille. Parce que Marseille, c'est chez eux, parce que l'ordre, parce que c'est colonie de vacances, hein, c'est le modèle paramilitaire, hein, des jeunesses fascistes. Hein, donc ce modèle-là, une langue qu'on connaît mal, finalement, un pays qu'on connaît mal, enfin, dans lequel on ne se sent pas chez soi, ça ne fonctionne pas tant, si bien que ça.
Bien, Stéphane Moulin, on est ici donc mettant dans cette salle de fête, de salle de spectacle. Il y avait aussi des projections de films. Comment se passait justement la vie culturelle ici à la Casa d'Italia à l'époque ?
Alors, pour que vos auditeurs situent un petit peu la géographie des lieux, hein, on a donc traversé un couloir et nous nous trouvons effectivement dans ce qui s'appelait à l'époque le théâtre du Dopolavoro, qui est aujourd'hui effectivement la salle de spectacle, de conférence de l'Institut culturel italien. À l'époque, cette salle pouvait contenir jusqu'à 400 personnes. Nos sources montrent que c'est complet, la plupart du temps. Complet et même cela déborde. On nous dit que certains vont justement trouver à s'installer dans d'autres salles où est mis en place tout un système de haut-parleurs pour pouvoir suivre les spectacles. Dans la cour, même parfois, certains de ces spectacles. Ce qui va d'ailleurs conduire à la fin des années 30, à la construction, juste à côté de la Casa d'Italia,
d'un grand... Rue d'Alger, là.
Rue d'Alger, effectivement, d'un grand théâtre, là, de 1500 places, qui s'appellera le Théâtre degli Italiani, le Théâtre des Italiens, et qui deviendra après-guerre, peut-être certains auditeurs s'en souviennent, le Théâtre Verdi, qui, lui, a totalement disparu puisqu'il a été vendu à des promoteurs au début des années 1970. Et aujourd'hui, il y a une résidence Verdi construite avec des matériaux qui ont été empruntés, si je puis dire, à ce théâtre. Alors dans la salle dans laquelle nous nous trouvons, il y avait divers types de spectacles. Un des moments forts de l'année, c'est la Befana. Vous savez que c'est une fête encore aujourd'hui en Italie, l'épiphanie extrêmement importante. À l'époque, il s'agissait de la Befana fasciste. À cette occasion, on remettait aux enfants des écoles, aux enfants inscrits dans les jeunesses fascistes, des paquets, hein, puisque on le disait tout à l'heure, on a affaire à des gens qui viennent des groupes sociaux les moins favorisés, et des paquets où on trouvait des vêtements qui avaient été notamment confectionnés par les dames du fascio féminin. On n'en a pas parlé encore, hein. Il y avait une section féminine du fascio, des confiseries, etc., etc. Sinon, il y avait, ici, hein, nous nous sommes assis sur la scène du théâtre, eh bien, la compagnie du Dopolavoro, donc des amateurs, des gens qui, effectivement, venaient faire du théâtre au sein du Dopolavoro et qui présentaient, justement, au public leur spectacle, qui n'était que très rarement inscrit dans une propagande. Alors oui, il y a quelques pièces, notamment, qui vantent la conquête de l'Éthiopie. Mais sinon, ça reste une minorité, c'est un répertoire tout à fait classique. Il y a des spectacles de chant également, le plus souvent italien. Alors ça peut être des ténors, hein, d'une musique un peu classique, mais c'est aussi des chants napolitains et le cinéma.
Et ils venaient d'Italie, ces musiciens, ces chanteurs ?
Oui, ils venaient d'Italie de la même manière que les films circulaient. Ils circulaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, dans le réseau des instituts culturels à l'étranger. Alors ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que la plupart des films diffusés à la Casa d'Italia ne sont pas des films de propagande. D'ailleurs, il y avait assez peu dans le cinéma italien de l'époque, et Mussolini, qui était réellement un amateur de cinéma, l'avait bien compris, hein, des films de propagande, là aussi un peu direct, il en avait compris les limites. Et en fait, cette propagande, elle passait de manière un peu diffuse, hein, dans ces films. C'était un certain nombre de valeurs, et qui étaient des valeurs d'ailleurs plutôt bourgeoises et conservatrices. Ou les péplums, par exemple, qui était déjà un genre très, très à la mode. Voilà le type de films qu'on diffuse, et on diffuse même des films hollywoodiens à la Casa d'Italia, ce qui peut paraître surprenant. En revanche, avant chaque projection, le public a le droit au ciné-journale, c'est-à-dire aux actualités cinématographiques qui, elles, sont envoyées depuis Rome. Et comme vous pouvez l'imaginer, là, on a affaire véritablement à une propagande beaucoup plus directe. Donc, on n'y échappe pas. Hein. Même si on vient pour le spectacle, si je puis dire, on est quand même soumis.
Est-ce que la Casa d'Italia était ouverte à l'extérieur, aux Français, hein, qui n'étaient pas d'origine italienne? Est-ce que à ces spectacles pouvaient venir des Français, du quartier ou d'ailleurs?
Il est souvent dit, hein, dans les textes, que ce soit les rapports envoyés à Rome, mais aussi dans la presse de l'époque. Hein, une des sources importantes que j'ai utilisées, c'est un journal qui s'appelle La Nuova Italia. Et La Nuova Italia est au départ le journal du fascio de Paris et qui est très vite en fait devenu le journal des fascistes en France. Donc un journal édité en France, en italien, pour les Italiens. Et souvent, effectivement, il est dit que le public français se mêle au public italien. Difficile à dire. Difficile à dire. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que la Casa d'Italia n'hésite pas à ouvrir ses portes à un certain nombre d'associations, des associations franco-italiennes, vous voyez, d'amitié entre les peuples, mais qui se sont souvent assez proches du régime fasciste. Et on est très fiers, effectivement, de leur montrer ce qui apparaît, c'est, à l'époque, comme un symbole, justement, de la modernité. Mais au-delà de ceux qui avaient un penchant pour le fascisme, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, dans l'opinion publique française, à l'exception de la gauche, le regard qui est porté sur l'Italie fasciste est plutôt bienveillant. Nombreux sont les intellectuels français qui font le voyage en Italie. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce pays qui à la fois attire par sa culture, mais ce pays envers lequel on a de nombreux préjugés, de nombreux clichés un peu condescendants. On dit que l'Italie, c'est notre sœur latine, mais on ajoute toujours un épithète, hein. C'est la petite sœur latine, parce qu'ils ne sont quand même pas à notre niveau. C'est ce que les gens se disent. Or là, effectivement, et quand vous lisez la presse, vos confrères de l'époque, la presse généraliste marseillaise, le jour de l'inauguration, ils sont fascinés, ils sont impressionnés par ce lieu, qui est un lieu, effectivement, disent-ils, rapportent-ils, d'une grande modernité. Et qui est considéré aussi, c'est intéressant, quand vous lisez le petit Marseillais, le petit Provençal, ce lieu est considéré comme un haut lieu de l'amitié franco-italienne. Et là aussi, il convient de remettre dans le contexte, il faut se souvenir qu'en janvier 1935, le chef du gouvernement français, Pierre Laval, se rend à Rome pour sceller le rapprochement avec l'Italie. L'ennemi alors, c'est l'Allemagne nazie. Et en fait, les choses vont évoluer avec la guerre d'Éthiopie. L'Italie est condamnée par la communauté internationale, dont la France. Le seul qui va soutenir l'Italie fasciste, c'est Hitler, ce qui va favoriser le fameux axe entre Rome et Berlin. Et pourquoi ce rappel? Parce qu'en fait, cela a une incidence sur ce lieu où nous nous trouvons, l'ex-Casa d'Italia. Et si on osait employer l'expression d'âge d'or de la Casa d'Italia, on dirait que finalement, il est assez court. Pourquoi? À partir de 1938, avec le rapprochement italo-allemand, mais aussi le discours du ministre des Affaires étrangères italien, Ciano, qui est le gendre de Mussolini, et qui revendique Nice, la Savoie, la Corse, Djibouti, la Tunisie, etc. Là, les choses vont se tendre entre nos deux pays. Et cela a une incidence, pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, cette Casa d'Italia, elle ne posait aucun problème aux autorités françaises.
Oui, justement, les autorités françaises, est-ce qu'elles surveillaient de près? Il y avait un dispositif de surveillance ici ou on laissait cet endroit tranquille? On ne le craignait pas au niveau espionnage ou autre?
Jusqu'en 1938, non. En fait, ceux qui sont surveillés, ce sont les antifascistes. Et à plus forte raison que ces antifascistes, eux, sont prêts à en découdre. Le chantier de la Casa d'Italia est plastiqué deux fois. Alors, c'est modeste, il n'y a pas de gros dégâts. La police n'a jamais retrouvé les coupables, mais il est hautement probable que cela ait été des antifascistes, hein, qui n'hésitent pas à faire le coup de poing, qui participent aux côtés des communistes français, aux côtés des anarchistes à des manifestations, etc. Eux, on les a à l'œil. On les surveille de très près. Hein. La moindre réunion politique dans une arrière-salle d'un café, il y a soit un policier, soit un indique. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un rapport. Et les gens sont identifiés. Ici, non. Ici, justement, ici, c'est l'Italie. Ils font leurs petites affaires, alors il y a quelques rapports, mais finalement, les sources françaises ne nous apprennent pas grand-chose de la vie qui était menée ici. Les choses changent en 1938. Où là, d'un seul coup, on peut imaginer qu'effectivement, autour de la Casa d'Italia, il y a eu des regards un peu plus appuyés de la part de la police française. Et ça va même jusqu'à, comment dire, des fantasmes, hein, de la part de la police, l'armée aussi. Puisque, en fait, à partir de 1938, on commence à percevoir peut-être des bruits de bottes. Et on peut lire des rapports qui croient savoir qu'au sein de la Casa d'Italia, on est en train de se former une sorte de cinquième colonne, des bataillons qui, en cas de guerre contre l'Italie, prendraient à revers l'armée française. On dit même qu'il y aurait dans des sous-sols, ici, qui n'existent pas, des stocks d'armes en vue d'un conflit. Cela a pour effet de diminuer de manière substantielle la fréquentation de la Casa d'Italia. C'est-à-dire que ces visiteurs de la maison, qui, on l'a dit, hein, ne sont pas nécessairement des militants zélés du fascisme, ben, ils comprennent bien que désormais, il ne fait pas bon être vu autour ou dans la Casa d'Italia.
Et à l'époque de la présence allemande ici, à partir de novembre 1942, est-ce qu'il y a une relation avec l'Allemagne entre donc la Casa d'Italia et les autorités allemandes?
Oui, les Allemands sont présents. Hein. Alors effectivement, cette Casa d'Italia, pour le rappeler très brièvement, donc en 1940, elle est évacuée au moment de la guerre, de ce que l'on a considéré être comme un coup de poignard dans le dos de la part des Italiens, puisque l'Italie déclare la guerre au mois de juin 1940, alors que la France est déjà un, voire deux genoux à terre. Et donc les lieux sont évacués, ce qui est, si j'osais dire, une première tragédie pour nous, les historiens, parce qu'à ce moment-là, sont détruits beaucoup de choses, beaucoup d'archives. Beaucoup d'archives disparaissent à ce moment-là. En revanche, elle renaît de ses cendres très vite. L'activité reprend, y compris effectivement lorsque Marseille est occupée par les Allemands. Et il y a effectivement, hein, notamment dans des spectacles qui sont organisés dans le grand théâtre des Italiens, la présence systématique des représentants allemands. Et puis à partir de 1943, en fait, les lieux restent, j'allais dire, sous la coupe fasciste, mais au moment où Mussolini tombe, son régime, et il trouve refuge grâce au soutien allemand à Salo, hein, la fameuse République sociale de Salo, et ici, ce sont les représentants de la République de Salo qui restent hébergés jusqu'à la libération de Marseille, qui constitue d'ailleurs un deuxième temps de disparition. Et notamment, ça pose la question aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure le buste de Mussolini. Je l'ai cherché, je l'ai cherché partout, je ne l'ai jamais trouvé. Tout ça a probablement été détruit à la fois par ceux qui partaient et par ceux qui arrivaient, parce que ceux qui se sont installés ici en 1944, ce sont des antifascistes. C'est le comité de libération italien, mais aussi la CGT. La CGT accompagne les camarades du comité de libération italien, et on peut imaginer, même si là il n'y a pas de documents qui l'attestent, qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de traces de la Casa d'Italia qui sont effacées.
Stéphane Moulin, on est devant la chapelle, ici. On ne peut pas y entrer aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Mais c'est aussi l'occasion de souligner le rapport entre le catholicisme, la religion catholique et le régime de Mussolini. Donc, comment ça se traduisait justement ici dans cette chapelle ?
Alors, on peut déjà peut-être dire un mot de cette chapelle. Effectivement, le public ne peut pas y entrer. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir pénétrer dans ces lieux qui sont aujourd'hui, effectivement, quasi à l'abandon. C'est un espace qui est très spectaculaire, vaste espace avec une grande hauteur sous plafond. Et cette Casa d'Italia, elle est extraordinaire. Mais alors, la chapelle, je serais tenté de dire qu'elle est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, je ne connais pas d'autres lieux de ce type ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui fait le caractère extraordinaire de cette chapelle ? C'est que vous avez sur les murs des peintures pariétales, de véritables fresques. Sur la droite, vous avez une grande fresque avec d'abord la déclaration de l'Empire. Ensuite, vous voyez Mussolini à cheval, qui se trouve Via dell'Impero, qui est la voie qui a été tracée à Rome. Ceux qui ont visité la ville la connaissent, elle s'appelle la Via dei Fori Imperiali aujourd'hui, et qui fait le lien entre le Colisée et la place de Venise, et qui traverse les forums. Et on voit Mussolini sur son cheval, qui est à côté d'ailleurs d'une statue de César, d'un empereur romain, et défile des troupes. Et puis on voit justement des scènes de construction. Et des jeunes gens qui hissent le drapeau italien. Et sur la gauche, vous avez une sorte de triptyque avec, d'une part, la mise en valeur des sportifs. Vous avez des footballeurs, des boxeurs, des athlètes. Vous avez, encore une fois, au milieu, une représentation de l'Amaro, d'ailleurs, se met en scène en train de construire la Casa d'Italia. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Les Italiens, un peuple fort, physiquement, un peuple qui dispose d'un génie de la construction architecturale. Et enfin, le troisième panneau, toujours sur ce mur de gauche, représente, met en scène deux thématiques qui sont mêlées. À la fois la bonification, c'est-à-dire le travail de la terre. C'était un des grands enjeux du régime fasciste que de bonifier notamment les marais en Italie. Mais quand on regarde d'un peu plus près, en fait, ces scènes de bonification, elles se situent en Libye. Donc c'est à nouveau la thématique impériale, coloniale, de valorisation de ces territoires. On rappelle que nous sommes dans une chapelle, donc un lieu dédié au culte religieux. Et pourtant, tout le décorum, lui, est dédié à une autre religion qui est la religion fasciste. Alors ça pose effectivement la question de la relation entre ces deux religions, si on peut dire. On sait que l'Église catholique s'est rapprochée du régime fasciste à l'occasion de la signature des accords de Latran. Les accords de Latran qui, à la fin des années 20, viennent régler la question romaine, c'est-à-dire que c'est notamment ces accords qui fixent les limites territoriales du Vatican telles qu'on les connaît encore aujourd'hui et qui font de la religion catholique une religion d'État. Alors, en migration, qu'est-ce que cela donne ? Il faut savoir que, dès la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les émigrants italiens sont accompagnés par des missionnaires. Ceux qui viennent en Europe sont accompagnés par une œuvre qui s'appelle l'œuvre Bonomelli, du nom de Monseigneur Bonomelli, qui est donc été à la tête de cette œuvre. Et les missionnaires, en fait, ils avaient deux missions, c'est le cas de le dire. La première, évidemment, c'était l'accompagnement spirituel. Puisque on considérait que l'Église considérait que la migration conduisait à une forme de dépravation morale. Et puis l'autre mission que se donnaient les missionnaires, c'était de participer, de contribuer au maintien des migrants dans leur italianité. Et cette mission, évidemment, elle résonne avec l'objectif que se donne le régime fasciste. Alors les choses sont un peu compliquées parce que justement les bonoméliens, comme on disait, sont accusés d'être trop proches des antifascistes. Quoi qu'il en soit, ils sont dissous. Et à partir de la fin des années 20, sont créées les missions catholiques italiennes en Europe. Et effectivement, il y a une proximité. C'est-à-dire que ici, nous sommes encore dans la cour, là où se déroulaient donc toutes les grandes célébrations. Toutes ces célébrations patriotiques, fascistes, commençaient par une messe célébrée par l'un des deux missionnaires. Et puis, effectivement, nous en avons la preuve là, cette Casa d'Italia comportait cette chapelle. Et je dirais que le consensus le plus visible se fait sur l'Éthiopie. C'est-à-dire que l'Église catholique soutient, accompagne le discours qui vise à défendre l'idée d'une mission civilisatrice de l'Italie. La France avait le même dans cette guerre coloniale.
Qu'est-ce qui se passait ici dans cette cour ?
Oui, alors là, on fait face à la cour. On a sur notre droite le consulat, sur la gauche, l'Institut culturel italien, donc, qui était le siège du fascio. Et cette cour, en fait, elle a été pensée justement pour la mise en scène du régime, pour les cérémonies. Nous avons tout autour de la cour de vastes terrasses. On a aussi des petits balcons qui permettaient non seulement d'accrocher des drapeaux, mais aussi de proclamer des discours. Et ces manifestations patriotiques, politiques, il y a tout un calendrier quasi liturgique pour cette religion politique comme on considère le fascisme. Et donc, parfois d'ailleurs, il y avait même des décors qui étaient montés avec des tribunes, on recevait des personnalités d'Italie, il y avait des discours, toujours une messe, et puis des défilés, des démonstrations gymniques. Et parfois, ces célébrations, elles s'inscrivaient dans un cadre plus large et plus festif. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, on organisait des bals, on mettait des lampions. Hein, notamment, il y avait un moment qui a connu beaucoup de succès, c'est le sabato fasciste, le samedi fasciste, hein, où, eh bien, au-delà de ces cérémonies, il y avait des concours de billard, de pétanque, des projections, bien évidemment, ou des spectacles dans le cinéma. Je vous dis que ça a bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que nos archives nous montrent que très vite, en fait, l'accès est réservé uniquement à ceux qui sont encartés, soit au parti, soit dans une des structures, le Dopo Lavoro, les jeunesses fascistes. Et puis, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais il y a aussi des associations qui sont accueillies au sein de la Casa d'Italie, des associations qui sont évidemment passées sous la coupe du régime fasciste. Donc, ils sont obligés de limiter l'accès à la Casa d'Italia en raison de l'attractivité, de l'affluence que suscitent les animations, si je puis dire, qui y sont proposées.
Il y avait donc ces enfants qui défilaient ici.
Oui, c'était effectivement ces enfants, ces jeunes fascistes, hein, les balilas, comme on les appelait. Pas seulement des garçons aussi, hein, il y avait des filles, les petites italiennes, qui défilent dans la cour, qui font des démonstrations gymniques. Nous sommes d'ailleurs juste devant l'entrée là, du gymnase, qui n'existe plus aujourd'hui, où on s'exerçait en vue notamment de présenter ces démonstrations. On retrouve en fait à échelle plus réduite les grandes célébrations telles qu'on peut les voir sur les images d'archives aujourd'hui en Italie, hein, où apparaissait, là c'était le clou du spectacle, le Duce Mussolini.
Merci Stéphane Mourlan, au revoir.
Merci, au revoir.
Vous venez d'écouter Voix marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.